On a confronté en fait par leur profession, par leur fortune. Ça, c'est une chose importante puisque il semblerait donc que dans les premières classifications, on note en fait la fortune des négociants. Chose qu'on ne retrouvera pas dans la classification suivante, notamment celle du compteur numéro 1. La classification connaît une seconde réforme en 1811 par la nomination en fait d'un inspecteur des comptoirs, Jean-Baptiste Chauvet, qui doit être un négociant bordelais, qui était un ami en fait du gouverneur Jobert, c'est pour ça qu'il a été nommé. Et cet inspecteur va en fait être chargé de la classification de la province et de Paris entre deux missions d'inspection. Il va mettre en place un système de double notation, parce que la première classification ne notait en fait que l'étendue en fait des affaires de la maison de commerce, et il va mettre en place un système pour noter la moralité du négociant. Et on va trouver en fait une première note qui note en fait la moralité, un peu l'honnêteté du négociant. La façon dont il mène ses affaires et les relations qu'il a avec ses homologues. Par exemple, on va noter les gens processifs et les gens malhonnêtes de la même note, la plus basse. Et il va aussi implanter la notation en fait d'une mise sous surveillance. Les maisons de commerce qui perdent de l'argent ou le fait qu'ils sont trop aventureuses en fait vont être mises sous surveillance, de façon à ce que, en fait, on puisse être circonspect dans le croix de l'écran, même si elles ont une surface financière importante. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui concerne la classification. Je vais vous parler maintenant d'une chose qui est importante, c'est sa diffusion. En fait, j'ai trouvé dans Balzac plusieurs extraits qui parlent de la classification. On trouve notamment dans le premier univers de courtisane, Balzac compare la classification des crédits de la Banque de France avec le fichier de la préfecture de police. Donc il dit « Ce calcul universel, bilan des consciences, est aussi bien tenu que l'est celui de la Banque de France sur les fortunes. De même que la banque pointe les plus légers retards, en fait paiement, elle soupèse tous les crédits, estime les capitalistes, suit de l'œil leurs opérations et fait de même fait la police pour l'honnêteté des citoyens. » Dans un autre, dans « Envers de l'histoire contemporaine », il indique « Je sais que les libraires ont des façons de traiter de réaliser qui font de leur commerce le plus foncé, le plus difficile à débrouiller, de tous les commerces parisiens. Monsieur Nicolas vous parlera des difficultés inhérentes à la nature des livres. Hein. Ainsi, vous le voyez, nous sommes raisonnables, nous avons l'expérience de toutes les misères, comme celle de tous les commerces, car nous étudions Paris depuis longtemps. Les Mongenaux nous aident, nous avons en eux des flambeaux, c'est par eux que nous savons que la Banque de France a le commerce de la librairie en suspicion constante, quoique ce soit un des plus beaux commerces, mais il est mal fait. » Donc en fait, j'ai fait une étude rapide en fait, de l'almanach du commerce qui parle de Paris, et j'ai essayé de comparer, de vérifier en fait si les dires de Balzac étaient vrais. Et donc j'ai comparé les libraires avec les négociants et par exemple les marchands papiers. Et en fait, je me suis aperçu, on trouve 290 libraires à Paris, donc en 1804. Il y en a 1% qui bénéficient de la première note de crédit. On trouve 13% qui ont bon crédit, 22% moyen crédit, et on trouve donc 24% qui ont un petit crédit, 20% qui ont mauvais crédit, et les 20% restants qui sont inconnus. Si on les compare avec les négociants, qui sont la profession, des professions les plus importantes, on a 10% qui ont le premier crédit, 16 bon crédit, 22 moyen crédit, petit crédit 22 aussi, 17 mauvais et 11 inconnus. On voit en fait que, on trouve en fait dans les classifications de Paris une répartition à peu près égale entre les bonnes notes et les mauvaises notes. On trouve à peu près 50-50. Et mais par contre, on a un gros décalage en fait pour les libraires, puisque les libraires, on a en gros 35-36% qui ont une bonne note, qui peuvent être admis à l'échange, alors que les 67% restants vont être rejetés. Donc, ce qui veut dire en fait que Balzac a raison, il décrit la réalité pour... ça veut dire en fait qu'il a eu accès à ce fichier. Donc, je pense notamment qu'il y a... Comme il a eu des devoirs dans sa première activité industrielle, fabrication de caractère d'imprimerie, je pense qu'il a... Il a dû être mis face à l'intérêt d'avoir une bonne note dans la classification des crédits, puisque c'est savoir si ces traits étaient acceptés ou non dans les montres. J'ai trouvé d'autres indications. Encore une fois, dans Balzac, c'est aussi dans Eugénie Grandet. Il indique qu'à la Banque de France se trouvent, comme chacun sait, les renseignements les plus exacts sur les grandes fortunes de Paris et des départements. Les noms des deux Grassins et Félix Grandet, ils sont connus et jouissent de l'estime accordée aux célébrités financières qui s'appuient sur d'immenses propriétés territoriales libres d'hypothèse. Donc là, Balzac indique qu'on connaît aussi la classification des départements. Donc c'est venu à porter en fait une preuve par le fait que la classification des départements avait été effectivement faite. Hein. Et j'ai trouvé également... une lettre en fait d'une négociante de la Mièvre qui madame Bourg de Boza qui écrit en fait à un négociant nantais et qui lui demande en fait de lui faire parvenir des essais à 3 mois de façon à être escompté à la Banque de France, avantage dont je suis bien maître, ma signature est étant admise comme la vôtre. Donc en fait Elle écrit à un négociant de Nantes, qui sont tous les deux bien notés, en leur disant, envoyez-moi des essais à 3 mois, moi je vais les endosser, avec votre signature plus celle de l'accepteur, il y aura 3 signatures, je les escompterai auprès du correspondant de la banque à Nevers, je ferai de même, et vous ferez la même chose avec le correspondant Nantais. Ça veut dire que la maîtresse de forge, en fait, a pu lire la classification des crédits et savoir en fait que le négociant nantais était bien noté. On sait en fait que la Banque de France en fait envoyait aux négociants, aux correspondants, une copie en fait de la classification qui leur permettait en fait de faire le tri dans les effets qu'ils acceptaient pour le compte de la banque. Donc ça veut dire en fait qu'on pouvait aller, un négociant pouvait aller dans une ville dans un chef-lieu de département, du moins chez un correspondant de la Banque de France, consulter la classification des crédits pour savoir en fait si ça lui permettait de savoir comment était noté la personne avec laquelle il voulait faire des affaires. Ça c'est très intéressant en fait cette circulation de l'information parce que c'est-à-dire que la banque, en fait, n'avait pas une vision mercantile de son information. Elle pensait à juste titre, en fait, que plus la classification était diffusée, plus, en fait, elle avait obtenu, en fait, des lettres de bonne qualité, puisque ses correspondants n'allaient prendre que des bonnes notes, des lettres bien notées, et elle aurait moins d'impayés. Et aussi, je pense que c'est aussi de renvoi d'ascenseur, puisque les correspondants lui envoient des informations gratuitement, il est normal qu'il bénéficie en retour en fait des informations des autres. Donc, j'ai trouvé dans le livre d'Henry Fenton, un économiste anglais sur les effets du du paquet de crédit en Grande-Bretagne, à la même époque. Le livre a été écrit en 1802 et traduit par Montesius Pictet en 1803. Des informations analogues, en fait. Il indique en fait que les directeurs d'une banque sont particulièrement bien placés pour apprécier le degré de crédit dont juge chaque individu dans son commerce. Ils ont connaissance de toutes les opérations de change de la place, jugent de la confiance dont juge passer chaque maison. C'est par l'institution des banques que l'appréciation de crédit de tous les individus qui font un commerce quelconque est devenue une science. Or, cette science est une des causes de la prospérité du commerce de la Grande-Bretagne et du crédit dont ces négociants jouissent dans l'étranger. Il est de l'intérêt des banques de se communiquer réciproquement, et elles le font, le degré de confiance qu'elles accordent à tel ou tel individu, afin de pouvoir régler d'après la totalité des emprunts de cet individu la mesure des prêts qu'on peut lui accorder avec sûreté. Et surtout afin de décourager les négociants de l'usage des circulations ou des lettres de change fictives qu'ils tirent les uns sur les autres pour se procurer des fonds. Donc on voit en fait que en Angleterre, on a les mêmes usages. Ça, c'est la problématique en fait de noter les effets de commerce. Henri Fenton parle en fait que les banquiers s'échangent la totalité, du moins la somme des crédits qu'ils accordent, et que le fichier anglais en fait contient également est un fichier d'endettement. Il faut savoir qu'à la banque, il existe un fichier analogue. En fait, la classification des crédits n'est qu'un des quatre registres des renseignements qui ont été constitués à la Banque de France. Donc il y a la classification qui donne la note de crédit. Il y a le registre des engagements qui donne la note, l'endettement global qu'on peut accorder à un négociant. Un des plus importants est le registre qu'ils appellent le registre d'ordre, qui est en fait un registre donnant les engagements des négociants entre eux, et qui indique en fait les signatures qui doivent être confondues. Par exemple, la banque Audifray et compagnie de Lyon, et une société à Paris qui s'appelle Villiers et compagnie. La Banque de France, j'ai trouvé en fait dans les archives une lettre, il y avait des crêtes qui étaient signées donc par ces deux maisons de commerce, et les crêtes ont été rejetées par le Conseil des comptes parce que en fait les actionnaires étaient les mêmes. Donc la Banque de France a considéré que les signatures n'étaient pas séparées et que la traite devait être rejetée parce qu'elle n'avait que deux signatures au lieu de trois. Et le dernier registre, qui s'appelle le registre des signatures, en fait, qui venait faire signer tous les négociants dont les traites de France, en fait, dont les traites pouvaient être admises à la Banque de France. Les négociants qui venaient signer, en fait, un registre pour qu'on ait un exemplaire de la signature pour s'assurer en fait qu'il n'y ait pas de fausse traite. Donc bien entendu, le registre d'ordre, celui qui donne les engagements entre les maisons de commerce, a disparu. Le registre de signature, je n'ai retrouvé en fait que celui des comptes courants, en fait, que les titulaires des comptes courants de Paris. Et pour le registre des engagements, il a disparu également. On ne sait pas en fait quelle était la capacité d'endettement de chacun des négociants. Je vous ai dit en fait que on avait créé des comptoirs des fonds après 1808. En fait, la Banque de France a créé trois comptoirs à Rouen et à Lyon. Ils vont ouvrir au 1er janvier 1809 et à Lille en 1er janvier 1811. Donc les comptoirs vont être chargés en fait dès le départ de classer les maisons de commerce de leur ressort. Il faut savoir que les comptoirs ont un ressort qui est beaucoup plus large que leur département d'origine. Le comptoir de Lyon en fait a en charge à peu près tout le sud-est et l'Italie. Le comptoir de Lille en fait a en charge en ressort d'activité tout le nord, l'est, puisque j'ai trouvé en fait des lettres entre Jobert et le ministre Molien qui indiquaient en fait qu'ils avaient hésité entre Lille et Strasbourg. pour la création du comptoir, et y compris donc la Belgique et la Rhénanie. Seul le comptoir de Rouen a un champ d'activité assez flou, parce que bon, déjà il est très proche de Paris, et en plus j'ai pas trouvé en fait de lien vraiment d'activité fort entre le comptoir et d'autres places. Donc au départ, les comptoirs vont faire une classification qui est assez conforme à celle de Paris. Sauf le comptoir de Lyon qui va, en 1813, en fait, créer sa propre classification. Il va donc garder la cote de crédit de 1 à 5 comme à Paris, mais il va séparer en fait l'activité des négociants avec une lettre de vente. Vont être notés A, en fait, les banquiers, les négociants importants. On va noter B, les négociants qui sont les plus spécialisés. Et C, en fait, les boutiquiers ou les petits négociants. En fait, il va avoir un tableau qui va donner en fonction entre la note de crédit et la lettre, la somme globale à accorder. C'est assez intéressant parce que la classification actuelle de la Banque de France comporte une lettre qui indique le chiffre d'affaires et une note, une analyse. Ce type de classification a été mis en place en fait en 1982, alors que on avait en fait oublié la courte expérience lyonnaise où il y avait une note similaire. Cette note a beaucoup intéressé, ce type de notation a beaucoup intéressé en fait un censeur de la Banque de France.